Annie-Claude Pinault. Bonjour, madame.
Bonjour.
Bon, première question que je vous pose. Pouvez-vous nous rappeler le pourquoi ce moyen de financement-là est arrivé dans l'univers des médias sociaux? Est-ce que c'est arrivé des États-Unis? Est-ce que c'est arrivé de l'Europe? Est-ce que c'est né au Québec? C'est arrivé d'où, ça, ce mode de financement-là?
Bien, en fait, le mode de sociofinancement arrive d'un courant, effectivement, qui vient de l'extérieur du Québec. Donc, c'est quelque chose qui s'est pointé dans l'univers du financement. Par la suite, ça s'est développé au Québec avec la ruche. C'est devenu un organisme, un OBNL, qui avait comme volonté d'offrir du financement participatif aux organisations, c'est-à-dire d'aller solliciter la communauté pour contribuer à leurs projets.
Ouais.
Ce projet-là émerge d'une initiative qu'il y avait eu dans le cadre des Fêtes de Québec il y a quelques années, où des projets avaient été financés par la communauté pour avoir lieu durant les festivités. Et c'est suite à cette idée-là que des gens ont réfléchi fort, ont eu des idées de fou et ont décidé de mettre en place la ruche.
Bien. Sans vouloir insister, là, vous ne savez pas quand même par qui ce projet-là, à l'origine, a été créé. Là.
À l'origine, au Québec.
Pas au Québec, quelque part dans le monde. Est-ce que ce sont les Américains qui ont pensé?
Des États-Unis, oui.
Ouais, OK. Puis au Québec, qui a parti le premier?
C'est Jean-Sébastien Noël qui a créé la ruche, dans le fond. C'est cet idéateur-là qui faisait partie de la promotion de Québec, qui a travaillé, rassemblé des gens autour de lui pour créer ce projet-là.
OK. Quelle est la grande force d'un moyen de financement comme la ruche? Quelle est sa grande force? Est-ce que c'est de rejoindre facilement les gens via les médias sociaux? C'est quoi au juste?
Bien, la facilité avec le financement participatif, c'est de fédérer une communauté derrière son projet. C'est-à-dire d'aller chercher un appui dans le milieu pour que son projet se réalise. Donc, ça permet d'aller chercher une notoriété, ça permet d'aller chercher une crédibilité auprès des autres bailleurs de fonds parce qu'il y a déjà des gens qui croient au projet. Mm-hmm. Ça permet aussi d'aller tester le marché avec un service ou avec un produit qu'on voudrait offrir.
Ouais.
Donc, c'est vraiment autour de ça que gravitent les projets. Puis, c'est sûr que ça a un impact dans le développement régional qui n'est pas à négliger non plus.
Parce que la question qu'il ne faut pas oublier de poser, là, parce que moi, ce matin, j'essaie de faire comme si c'était la première fois qu'on parlait de ça pour que tout le monde qui est dans le train de la radio présentement là, se sente pas exclu. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'en parler comme si tout le monde connaissait ça. On en parle plutôt, en tout cas en début d'entrevue, comme si personne connaissait ça. Est-ce que pour qu'un projet soit à la ruche, il doit d'abord être accepté ou est-ce que c'est un peu comme d'autres sites qui font que tu t'inscris puis tu n'as pas de permission à demander à personne? Là? Est-ce qu'on doit recevoir une autorisation quand on veut présenter un projet?
Il n'y a pas d'autorisation à recevoir. Il faut dire que la ruche est accessible à tous. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des travailleurs, ça peut être des OBNL qui font campagne, ça peut être des artistes. Il n'y a pas de fermeture de ce côté-là. La ruche, en cours de route, c'est dotée de règles sur le type de projet. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le projet doit avoir un impact dans son milieu.
Mm-hmm.
Donc, que ce soit un impact économique, un impact touristique, un impact culturel, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que le projet doit avoir un impact dans le milieu où il est créé.
Ouais. Est-ce que ça profite à quelqu'un, mis à part la personne qui veut lancer un projet et qui a besoin de financement? En fait, est-ce que la ruche paie des redevances à quelqu'un?
Nous, on ne paie pas de redevances à personne comme on est un OBNL.
Oui. Est-ce que les gens qui inscrivent un projet doivent payer des redevances?
Ce n'est pas des redevances, il y a des frais d'utilisation comme toutes les plateformes web qui font du financement participatif ou du sociofinancement. Donc, il y a un frais qui est de 5 % qui est un frais qui est utilisé pour l'amélioration de la plateforme technologique, c'est-à-dire les améliorations du site. Et il y a un pourcentage qui va pour les frais de transaction. On dit généralement à un promoteur de calculer environ 8 % dans son montant de campagne qui vont être associés à des frais qui sont reliés à l'utilisation de la plateforme et aux transactions financières. Pour dire qu'on est une des organisations qui a un taux le plus dans les plus bas, si on se compare au marché au niveau du financement participatif.
Bien. Donc, j'ai un projet, je demande 10 000 $. Les frais que j'aurai à débourser, c'est 8 % de 10 000.
Exactement.
Est-ce que c'est 8 % de 10 000 atteint, mettons qu'en cours de route, là, ça ne marche pas mon affaire, puis j'ai 3 500, est-ce qu'il faut que je paye 8 % de 10 000 quand même?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Dans le fond, c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe à la ruche, c'est ce qu'on appelle un principe de on doit faire un objectif donné dans un temps donné. C'est-à-dire, exemple, si je vous donne l'exemple de Cuisine Expresso qui a eu lieu l'année passée à la même période. On voulait accumuler 5 000 pour l'achat d'une machine à café et on avait décidé de faire une campagne de 18 jours.
Donc, à ce
moment-là, on devait atteindre le 5 000 dans 18 jours pour recevoir l'argent. Et à ce moment-là, on avait les frais. Si la campagne échoue, malheureusement, pour de multiples raisons, le promoteur n'a aucun frais pour son
projet. Oui, je comprends. Donc, on doit se fixer dans le temps. On doit fixer le montant. On doit fixer la durée de temps. Est-ce qu'il y a une durée limite?
Oui, 90 jours.
OK. Donc, on n'attend pas longtemps pour savoir si ça fonctionne ou pas.
Bien, c'est que ça permet aussi de s'activer puis de faire les actions pour que la campagne ait lieu. Parce qu'une campagne, ce n'est pas miraculeux. Il faut comprendre que le promoteur doit faire la promotion de son projet, doit travailler, structurer son réseau. Et ça se fait avant d'entrer en campagne. Donc, il y a vraiment un processus d'accompagnement qui se fait à la ruche qui est un peu différent des autres plateformes aussi. C'est-à-dire que, outre moi, à la direction générale, on a des gens qui sont des spécialistes de projet qui vont accompagner les promoteurs dans le montage de leur campagne, mais dans toute la structure promotionnelle aussi qu'il doit avoir autour pour que ces gens-là soient outillés quand ils arrivent en ligne et que ce soit plaisant puis qu'ils atteignent leur objectif.
Et ils se paient comment, ces gens-là, à même le 8 %
Pas du tout. Dans le fond, c'est du financement qu'on reçoit, c'est de multiples apports, mais ça ne fait pas partie du 5 %
OK. Racontez-moi un peu, est-ce qu'il y a des filtres à la ruche? C'est-à-dire, bon, on a dit qu'il n'y a pas de permission à demander, en autant que le projet est structuré, en autant qu'il est défini dans le temps, étant donné qu'on connaît le montant, tout le monde peut participer à la ruche. Est-ce qu'il y a quand même des filtres? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut se faire arnaquer de toutes sortes de façons. La beauté avec la ruche, c'est que si tu as envie de participer, tu participes, puis si tu veux pas, tu participes pas. Mais en même temps, tu pourrais te faire arnaquer par un projet qui a l'air bien beau, puis qui, dans le fond, permet de cacher derrière des gens qui sont mal intentionnés. Avez-vous des filtres?
Ben, en fait, il y a deux types de filtres. La première chose, c'est qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels on n'ira pas. Exemple, le cannabis, tout ce qui est d'ordre sexuel ou politique. Donc, ça, c'est des projets à exclure. Si c'est quelque chose qui tend vers ça, c'est certain que ce n'est pas un projet. Ça contrevient aux règles de base de la ruche. Pour ce qui est des filtres que vous nommez, il y a un engagement quand on fait une campagne sur la ruche, c'est que le promoteur qui va faire campagne a une obligation légale de rendre ce pourquoi il a fait campagne. Donc, il est régi par un contrat de consommateur auprès du contributeur. Donc, il doit s'assurer d'être capable de donner la contribution que la personne a achetée.
Ouais.
Cela dit, nous, on va toujours s'assurer que les promoteurs ont de l'aide, ont différents partenaires autour d'eux. C'est rare qu'un projet qui va être sur la ruche ne sera pas soutenu par un CLD, par une MRC, par un microcrédit, par une organisation quelconque qui va l'aider à structurer son projet financièrement pour s'assurer de la pérennité puis de la faisabilité du projet.
Je comprends. Est-ce que vous avez déjà dû refuser des projets ou encore est-ce que vous vous êtes carrément fait jouer dans certains cas depuis 5 ans?
Je vous dirais qu'on ne s'est pas fait jouer. Par contre, il y a eu des filtres que je vous nommais, entre autres, sur les types de projets. C'est certain qu'au fil du temps, il y a eu des ajustements quand les projets arrivaient sur la plateforme. Il y a eu des discussions, justement, pour s'assurer d'éviter qu'on tombait dans des choses qui pourraient être illégales ou qui pourraient cacher autre chose. Donc, c'est sûr qu'il y a un mécanisme. On est tous alertes à ça, que ce soit peu importe la région, que ce soit peu importe l'individu qui va être en contact avec un projet du côté de la ruche, on va toujours s'assurer de certaines choses avant la mise en ligne. Puis, des fois, on va poser plus de questions.
Depuis 5 ans, est-ce qu'il y a une certaine stabilité? Est-ce qu'on a atteint un certain point de stabilité par rapport à l'offre sur la ruche? Parce qu'on pourrait penser que c'est en constante progression. On pourrait penser qu'à l'intérieur de ces 5 ans-là, il y a eu de bonnes années, de moins bonnes années. Est-ce qu'on est encore en progression ou est-ce qu'on a atteint un certain plateau de stabilité?
Bien, en fait, je vous dirais qu'on est encore en progression parce que cette année, ça a été une année charnière à la ruche. Dans le fond, si on fait le constat des 5 ans, En mars passé, on a passé le cap des 100 projets mis en ligne. Donc, c'est plus de 100 projets qui ont été mis en ligne au Bas-Saint-Laurent seulement. On a aussi atteint le million amassé en contribution auprès des contributeurs. Donc, c'est 1 million qui a été remis pour des projets dans la communauté en juin. Puis, de tous ces projets-là, parce que présentement, il y a 117 projets qui ont été en ligne, c'est 93 projets qui ont vécu un succès. Donc, c'est vraiment des chiffres importants. Donc, il y a une progression, oui. On le sent aussi avec les nouveaux programmes qu'on a du côté de la ruche. On a des ententes avec certains ministères qui nous permettent d'offrir des financements additionnels qui sont pas disponibles ailleurs. Entre autres, le fonds FM1, qu'on appelle, qui est un fonds avec le secrétariat de la jeunesse pour les initiatives, c'est-à-dire les projets qui ont une clientèle entre 15 et 29 ans. On a aussi un nouveau fonds qui a été lancé en juillet avec Recycle Québec, qui, lui, vise la réutilisation, le réemploi des matières. Donc, lui aussi, c'est un fonds qui est exclusif, qui se fait via la page de campagne pour faire la demande de financement. Donc, c'est pas une demande de financement traditionnelle. Et c'est vraiment des montants, c'est des bourses. Donc, c'est non remboursable. Et ça permet de bonifier les projets. Donc, exemple, on a vu beaucoup de projets dans le FM1. Il y a même eu un FM1 COVID dans les derniers 18 mois, qui était vraiment relié à activer des projets qui toucheraient la jeunesse pour s'assurer qu'on les oublie pas en temps de pandémie. Mm-hmm. Puis on a eu aussi toute la vague, vous avez vu la vague du côté des restaurants qu'il y a eu l'an passé, l'année d'avant, les guignolés qui sont faits pour certaines aussi du côté de la ruche l'an passé avec l'initiative de Desjardins. Donc c'est vraiment des programmes comme ça qui viennent bonifier, qui nous distingue aussi des autres plateformes qui sont offertes.
Ouais. Est-ce qu'on dirait que sur le simple plan de la plateforme, là, et non pas des à côté que vous venez de nous nommer, sur le simple plan de la plateforme, est-ce que vous avez senti qu'il y avait eu un mouvement particulier dans la dernière année et demie à cause de la COVID?
Oui, il y a eu un engouement. Il y a des gens qui ont de plus en plus de projets, qui ont de plus en plus envie de se lancer, d'essayer. D'avoir des initiatives, de créer des initiatives qui vont pérenniser leur milieu, leur petit village, leur projet. Donc, oui, il y a une effervescence. Ce qu'on voit aussi, entre autres au niveau du Bas-Saint-Laurent, c'est qu'anciennement, on avait des campagnes qui avaient beaucoup de petits montants, entre 1 000 et 5 000. On en voit de moins en moins. Des projets qui vont émerger vont avoir des demandes qui sont au-dessus de 10 000, on va voir des 15 000, des 20 000. Fait que c'est des montants plus importants, c'est des projets plus ambitieux. Et c'est ce qu'on voit là, comme tendance là, du côté de la ruche.
OK. La moyenne des demandes augmente.
Oui.
Bien. Madame Pinault, merci. Ça a été très intéressant et surtout éclairant.